Et si nous redevenions humains? Sophie vous invite à questionner vos croyances pour aller plus loin dans votre quête de conscience au service du vivant. Ce podcast est fait pour encourager les chercheuses et les chercheurs en humanité, leur donner des clés issues de l'expérience concrète de Sophie dans les domaines de la parentalité, des collectifs et de l'accompagnement de l'enfant. Bonne écoute!
Bonjour, je profite de ce podcast et des questions qui m'ont été posées par un auditeur pour donner encore des précisions sur le thème de l'enfant roi, qui est un thème complexe qu'il convient de ne pas caricaturer parce que ce serait vraiment contre-productif et préjudiciable pour les enfants que nous avons à accompagner et qui sont dans ces syndromes-là. Notamment, l'auditeur me demande est-ce que on peut neutraliser des comportements sans violence pour un enfant qui déborde, comme dans l'exemple que j'avais donné d'une petite fille de 6 ans qui écrase systématiquement les petites productions qui sont faites dans le cadre d'un jeu entre une jeune adulte et un enfant de 3 ans. Donc la petite fille, elle vient et silencieusement, elle écrase avec sa botte toutes les petites poteries qui sont issues du jeu entre l'adulte et le jeune enfant. Et je raconte aussi que l'adulte n'a pas su quoi faire, n'a pas su comment réagir, n'a pas su quelle serait la bonne attitude dans ce cas et qu'elle a préféré s'abstenir pour ne pas rajouter de la tension et du drame à cette petite situation. Évidemment, je conseille et je recommande d'être vraiment des adultes face à l'enfant, c'est-à-dire de ne pas laisser des situations glisser vers le triangle victime-bourreau, sauveur, et d'anticiper ces situations en accompagnant l'enfant qui est en difficulté, en l'occurrence dans la situation où les deux enfants peuvent être en difficulté, et puis l'adulte l'est aussi d'ailleurs. Pour apporter des ressources d'adultes, c'est-à-dire quelque chose de plus juste, de plus équitable, de plus posé, qui tient compte de l'un et de l'autre, une situation empathique néanmoins pour l'un et pour l'autre, mais avec une certaine fermeté dans le résultat. Peut-on laisser un enfant détruire ce que fait un autre enfant? Non. Peut-on laisser un enfant taper un autre enfant? Non. Peut-on laisser un enfant perturber la discussion de plusieurs adultes entre eux? Non. Peut-on laisser un enfant toucher à tout dans un magasin au risque d'abîmer ou de salir ou de déplacer les objets qui ont été organisés par les professionnels du lieu? Non. Non plus. Est-ce qu'on peut laisser un enfant déranger les autres dans un restaurant? Non. Tout cela, ça s'accompagne. Ça ne veut pas dire qu'on est en position ou en posture descendante sur l'enfant, de domination, ou même pas de posture éducative. On est en train d'accompagner ce que vit l'enfant. Et on ne l'abandonne pas, on ne le laisse pas tomber, on est là avec lui. Et lorsqu'on perçoit un besoin, comme un besoin d'être contenu ou d'être repris, pour ne pas porter préjudice à autrui, à ce moment-là, on est là. On est là. On est là avec toute notre connaissance, nos compétences, notre empathie pour pouvoir accompagner cette situation. Alors, dans la forme, effectivement, l'auditeur me fait remarquer qu'un stop peut être perçu comme une violence, une parole tranchante, une parole qui brise quelque part l'élan de ce qui est en train de se passer pour obtenir un arrêt de l'acte ou du geste. Donc ce stop-là, pour être non-violent, doit partir d'un endroit de nous qui n'est pas envahi par l'émotion, un endroit qui est aligné, donc qui est vertical, qui est une forme d'autorité. Mais c'est pas l'autorité je te domine pour que tu obéisses à ce que je veux, c'est l'autorité qui garantit l'intégrité du vivant, de ce qui se passe dans la situation. Je ne peux pas être un adulte aux côtés d'un enfant qui est victimisé par un autre enfant et ne rien faire. À ce moment-là, je produis de l'abandon. Donc la seule chose que je peux faire, c'est de m'interposer avec fermeté, tout en étant complètement dans l'écoute empathique de la situation et de ce qui peut se passer, et pour l'un et pour l'autre. Le problème étant que dans la plupart des cas, et je peux témoigner que ça a été mon cas, lorsque un enfant déborde, que ce soit dans une crise de rage, que ce soit parce qu'il fait quelque chose qui vraiment nous était fermement interdit lorsque nous étions des enfants nous-mêmes et qui avait été largement réprimandé si nous avions fait telle ou telle chose. Et il y a l'enfant intérieur qui est comme révolté devant cette situation. Et nous allons voir émerger des colères, de l'agacement parfois un énorme sentiment d'injustice lorsque l'enfant libre, qui n'a pas peur de l'adulte, va se comporter de telle ou telle façon. Dans le cadre de l'enfant roi, nous avons vu que il y a quelque chose qui ne s'est pas construit au niveau de la relation sociale et des repères nécessaires pour savoir si je peux faire telle ou telle chose, si je peux me comporter de telle ou telle manière. Et donc l'enfant est quelque part sans repère et va tenter des expériences, sans doute inconscientes dans la plupart des cas, mais qui peuvent porter préjudice à autrui ou être fortement désagréable, voire carrément insupportable dans certaines situations. Donc le but de l'intervention, c'est vraiment d'abord de stopper et ensuite de pouvoir rentrer en dialogue avec l'enfant pour comprendre son geste et peut-être poser des mots, mettre en lumière le mieux que l'on peut ce qui peut se passer dans cette situation avec l'enfant. Donc il ne s'agit pas de lui faire un cours sur une doctrine psychologique quelconque, mais plutôt l'accompagner dans le ressenti et les besoins liés à la situation. Il y a quelques jours, j'ai été face à une situation aussi où il y avait pas mal d'émotions chez une petite fille, donc qui avait une balançoire, une unique balançoire à disposition de plusieurs enfants qui étaient là dans un apéritif et elle voulait garder la balançoire. Donc quand une petite fille beaucoup plus jeune s'est approchée pour la lui demander, elle a tout de suite été fortement stressée à dire non, c'est moi qui l'ai, je la garde. Et donc il y avait le papa de cette petite fille et la petite fille qui ont exprimé qu'elle aussi elle avait envie de jouer à la balançoire. Et donc elle dit non, mais je la garde pour le moment longtemps, au moins 10 minutes. Et donc, ça faisait beaucoup, 10 minutes. Alors, le papa de la fillette plus grande qui avait la balançoire a dit, mais non, c'est trop long, 10 minutes, 2 minutes. Et donc, elle a commencé une négociation très émotionnelle chez l'un et l'autre, parce que la fille à la balançoire était au bord des pleurs, son papa perdait patience, et ça n'aboutissait pas à autre chose qu'un rapport de force. C'est-à-dire que le papa a dû finalement poser, bah écoute, soit tu te plies à la règle des 2 minutes, pas plus, soit on s'en va. Et la petite fille donc était en détresse parce que elle voulait pas partir, mais elle voulait pas non plus les 2 minutes. Enfin, tout était compliqué. Du coup, l'autre petite fille avec son papa, ils se sont éloignés parce qu'ils ont vu que c'était vraiment trop compliqué. Ça a continué à monter en tension entre le papa et la fille, la fillette à la balançoire. Donc, à un moment donné, j'ai proposé mon aide. Et la petite fille n'était pas prête, prise dans son émotion, dans son exaspération, dans sa tristesse, sa détresse même. Donc, c'est là qu'on voit que c'est sérieux pour l'enfant aussi qui déborde, entre guillemets, ou qui n'arrive pas à se caler sur une relation qui serait équitable, raisonnable et agréable pour tout le monde, mais qui juste est dans son insécurité personnelle à ce moment-là et l'exprime à travers des actes comme vouloir accaparer quelque chose, ou vouloir toute l'attention, vouloir décider, vouloir être la première, enfin voilà, donc des enfants qui vont être dans l'insécurité de ce qui pourrait se passer pour eux et qui donc vont maximiser leur réaction. Et donc on a discuté avec cette petite fille parce que je savais que le phénomène de la balançoire était récurrent dans le groupe et que beaucoup d'échanges houleux avait lieu autour de cette balançoire. Et donc, on a essayé de voir avec elle simplement pourquoi il y a autant de stress autour de la balançoire. Et donc, elle a reconnu que pour elle, c'était pas agréable non plus de toujours devoir lutter pour avoir cette balançoire et avoir peur qu'on la lui prenne, et etc. Donc, on a constaté que voilà, la situation autour de la balançoire, c'était une situation de conflit, de guerre, quoi. C'est la guerre de la balançoire. On a aussi pu constater que c'était pas indispensable parce qu'il y avait aussi des moments ou des situations où on pouvait se passer la balançoire tranquillement sans que ce soit un enjeu de pouvoir ou un enjeu de priorité, un enjeu de place. Et donc la petite fille, elle a reconnu, elle a vu, oui, elle a dit oui, c'est vrai que c'était pas agréable pour elle non plus, en fait, cette situation, que finalement, après, bah, tout le monde est énervé, les enfants sont énervés, les parents sont énervés. Voilà, on a regardé ça, mais tranquillement. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je n'avais de ressentiment ou de moralisation par rapport à son comportement. J'étais juste en train de constater avec elle les faits, la situation telle qu'elle était. Et donc, on en est arrivé à se demander ben, comment on pourrait faire en fait. Comment on pourrait faire? Est-ce que toi, tu as des idées? Alors oui, on pourrait faire chacun son tour. On pourrait fixer un temps maximum. Ok. Et après, mais comment on fait pour faire respecter ce temps? Ah ben, peut-être on demande aux parents de mettre un minuteur. Oui, mais ça met tous les enfants en dépendance de leurs parents et de leur bonne volonté à mettre le minuteur sur leur téléphone, etc. C'est un peu compliqué. Et du coup, on a décidé ensemble hein, que on allait construire un sablier avec des bouteilles en plastique, peut-être bricoler ça, qu'on allait fixer à côté de la balançoire. Et comme ça, les enfants seraient autonomes pour observer le temps écoulé avec le sablier. Et ça, c'était une idée qui l'a mise en joie, en fait. Elle a commencé à sourire et à se réjouir. Hein, de pouvoir mettre en œuvre cette solution. Et c'est ça les ressources, c'est-à-dire que on passe du cerveau limbique au néocortex. On invite l'enfant, on l'amène à se positionner et utiliser une autre partie de lui-même qui est l'espace des ressources qui va être tellement précieux à l'âge adulte parce que c'est avec ces ressources-là qu'on va pouvoir accompagner les enfants qui sont autour de nous. Donc c'est un apprentissage fondamental de passer de l'émotionnel à la ressource. Et si vous observez bien en vous ou autour de vous, et c'est ce que j'ai observé en moi aussi, c'est que comme je n'avais pas eu cette possibilité de gérer comme ça des situations entre enfants, enfin je n'avais pas été témoin étant enfant d'adulte à ressources, mais plutôt d'adulte émotionnel. Qui, lorsqu'il y avait un problème avec les enfants, ben, s'énervait tout de suite, mettait une forme de cadre arbitraire avec la colère, donc une colère qui fait peur à l'enfant. Et lorsque l'enfant a peur, ben, il obéit. Donc on se faisait gronder, on se faisait menacer, il y avait du chantage, on pouvait se faire punir éventuellement en privé. Et tout ça, c'est juste. L'émanation de l'émotionnel. Il n'y a pas de ressources à cet endroit-là, chez l'adulte non plus. Donc quand l'adulte intervient avec une tranquillité émotionnelle et des ressources, ben, l'enfant apprend ce circuit. Il apprend à élaborer des solutions constructives. Et ce que j'ai observé lors de cette soirée, donc ça c'était vraiment le début de soirée, c'est que cette petite fille qui partait dans une difficulté qui allait s'amplifier visiblement parce que le papa était déjà très fâché, il voulait rentrer à la maison, puis finalement il a disparu, je crois que lui il est rentré à la maison. Et la petite fille, elle était en détresse, elle était vraiment, elle voulait rester à la soirée, et puis en même temps, il y a tout qui était en train de se passer. De travers, juste sur un petit épiphénomène de partage de balançoire qui se passait pas bien, avec des adultes qui n'arrivaient pas à accompagner. Et je jette pas la pierre parce que moi aussi, quand j'étais jeune maman, jeune éducatrice, etc., je ne savais pas faire. Et il m'a fallu apprendre. Hein. Il m'a fallu réapprendre ce que les adultes n'avaient pas pu m'apprendre aussi quand j'étais petite. Et moi, j'avais appris que bah, l'émotion, finalement, ce qui vient en premier lorsqu'il y a une situation difficile. On s'énerve, on s'agace, on a peur, on est triste, y a du drame, il y a du psychodrame, y a des mots qui dépassent la pensée, etc. Donc c'est ça, c'est le modèle que j'avais. Donc pour pouvoir agir autrement, d'une manière qui est apaisée et qui est constructive pour chacun, d'une manière qui ne construit pas le triangle victime-bourreau-sauveur, parce que celui-là, il est terre, il est toxique, et on va le laisser de côté. Eh bien, la seule façon de faire, c'est d'avoir de l'empathie pour chacun et puis d'élaborer des solutions constructives avec son intelligence, le cerveau, ce qu'on appelle le cerveau intelligent, c'est vraiment le cerveau des ressources. Et ce que j'ai observé, donc, c'est que cette petite fille, elle a passé une excellente soirée, parce qu'après, on a dû prendre des décisions, on a choisi le prénom du petit âne qui était né dans la semaine, et tout ça, ce sont des situations relationnelles à fort enjeu pour les enfants insécures, parce que ils peuvent avoir peur de perdre quelque chose si c'est pas, par exemple, leur idée qui est choisie, ou si ils ont le sentiment de n'être pas entendus, etc. Alors que là, tout s'est vraiment merveilleusement passé. Et la petite fille a coopéré, elle a été joyeuse, elle a été partageuse, voilà. Et donc des fois, il ne faut pas grand-chose, il faut juste mettre de la ressource pour pouvoir rassembler et apaiser, et que la coopération soit de nouveau possible, même avec des enfants qui a priori nous paraissent assez difficiles. Donc neutraliser ce temps de violence, c'est ça, c'est d'abord stopper. Ça peut être un stop aussi physique, hein, s'il est si nécessaire, mais c'est pareil, si intérieurement vous êtes dans une paix, dans une certaine forme de sérénité, ce qui n'est pas toujours accessible, donnons-nous du temps, de la douceur et vraiment de la compassion pour les parts de nous qui n'ont pas accès à cette sérénité parce qu'elles ont été blessées. Donc il faut beaucoup de temps et de travail sur soi et de reconnexion avec l'enfant intérieur pour pouvoir comprendre ses réactions et devenir de plus en plus paisible dans le quotidien. Mais une fois que c'est acquis, eh bien on peut même devoir prendre un enfant dans ses bras pour l'empêcher de se faire mal ou faire mal à autrui, ou pour l'éloigner d'une situation qu'il ne peut pas gérer émotionnellement. En fait, moi, ça m'est arrivé de prendre mon enfant et de sortir de la pièce et de devoir l'emmener alors qu'il est en train d'hurler, de taper des pieds, de vouloir mordre parfois. Mais juste, ben voilà, on accompagne avec calme, tranquillement, le plus tranquillement qu'on peut sur le moment. Et on va mettre l'enfant dans un espace de sécurité. Ça peut être sur un matelas, sur un tapis, dans l'herbe. Un endroit où il ne va pas se faire mal et où il ne va pas faire mal aux autres, il ne va pas détruire. Et on ne l'abandonne pas à sa colère. Dans la mesure du possible, on reste avec lui ou à proximité, parce que des fois, les enfants très en colère n'ont pas du tout envie d'être touchés ou d'être en présence. Et à ce moment-là, on s'éloigne un petit peu, on dit « je suis là ». Et si tu as besoin de moi, je suis là. Ou si l'enfant est vraiment très, très, très enragé, qu'il pourrait se faire mal, ou on peut rester avec lui, on peut le contenir, même le maintenir parfois, pour qu'il ne se blesse ou qu'il ne retourne enragé, finir de casser la figure au copain qui l'a énervé. Donc on va vraiment rester avec jusqu'à l'apaisement. Et parfois, ce qui est déclenché suite à la crise, ça peut être une discussion pour évaluer ce qui s'est passé, essayer de revenir dessus, de voir quels étaient les besoins et de mettre de la compréhension sur la situation. Et là aussi, l'enfant, la seule chose dont il a besoin, c'est d'une écoute empathique qui va savoir reformuler le mieux possible ce qui s'est passé pour qu'il puisse prendre conscience et des circuits à l'œuvre et petit à petit apporter de la compétence et de la ressource sur ce type de situation. Voilà, accompagner, c'est ça. Donc oui, c'est exigeant, oui, ça prend de l'énergie, oui, ça prend du temps, mais c'est aussi un gain de temps et d'énergie pour l'avenir, parce que plus les enfants sont accompagnés de cette manière et plus ils deviennent autonomes et compétents pour gérer par eux-mêmes les situations qu'ils ont à traverser. Donc ça vaut vraiment le coup d'investir en quelque sorte, de capitaliser dans un accompagnement bienveillant qui va permettre à l'enfant de grandir et d'acquérir de plus en plus de ressources qui lui seront nécessaires à l'âge adulte. Une autre question de l'auditeur, c'était « Mais si l'enfant perturbe tout un groupe, comment je peux intervenir puisque il s'agit d'un besoin particulier à ce moment-là et pas forcément du besoin du groupe ?» Donc ça, c'est vrai que c'est une question qui est très présente pour les enseignants, les éducateurs qui sont face à des groupes parfois très importants avec un ou deux adultes pour 25, pour 30. Donc dans ce cas, comment faire? Moi, je n'ai pas d'autre solution que déjà de préconiser d'être toujours au minimum deux adultes lorsqu'on a affaire à un groupe d'enfants pour qu'il y ait un adulte qui puisse se mobiliser sur la situation critique, la situation difficile qui va émerger. Et qu'il puisse se détacher à ce moment-là. Nous, dans l'école que j'ai dirigée pendant 20 ans, la ferme des enfants, bah, c'était vraiment le cas. Il y avait toujours minimum deux adultes en présence. Et les éducateurs de notre école, c'était très clair pour eux que, quoi qu'il en soit, lorsqu'il y a un enfant qui est dans le besoin, qui est dans une forte émotion, eh bien, on va offrir ses compétences empathiques pour l'accompagner. Il était quasi hors de question de faire autrement. Ça nous fait comprendre aussi que ce qu'ont fait nos parents, nos grands-parents, nos éducateurs, nos enseignants dans notre histoire, c'est chercher une solution de facilité pour faire cesser le plus rapidement possible la situation, de manière à ne pas être perturbé par la situation. Donc, moi, à l'école où j'allais, quand j'étais en primaire, j'ai été mise au coin, par exemple. On me mettait au coin parce que c'était la solution rapide, efficace en termes d'ambiance, mais extrêmement inefficace, voire préjudiciable. Et pour l'enfant qui est mis au coin et pour tous les autres qui sont observateurs de cette situation humiliante et peu nourrissante en termes d'apprentissage. Même c'est le contraire. C'est-à-dire que s'il y a un problème qui arrive dans une classe parce qu'il y a un enfant, je ne sais pas, qui n'a pas compris l'exercice ou qui a été maladroit ou qui a transgressé une règle ou a fait du bruit à un moment où il ne fallait pas en faire, je ne sais pas quel était le problème parce que justement, je ne me souviens absolument pas parce que je n'en ai rien appris de ces situations. Donc, je ne me souviens même pas ce que j'avais fait pour mériter d'aller au coin. Mais pour l'adulte, ça lui prend 3 secondes. C'est « Sophie, tu te lèves, tu vas au coin. 10 minutes, tu reviendras quand je t'appellerai. » Voilà, donc c'est réglé. Et l'adulte continue son cours. Vous comprenez que c'est une solution de facilité extrêmement rapide et efficace. Et c'est un peu ce qui se passe lorsque on impose à l'enfant que la situation qui le met en difficulté et donc qui nous met en difficulté cesse immédiatement, quelle que soit la forme que prend notre injonction. Est-ce que c'est on lui fait peur, on le menace, on fait du chantage, on lui fait les gros yeux, on l'envoie dans sa chambre. Voilà, des actes qui sont reliés à la violence éducative ordinaire mais qui ne permettent pas à l'enfant ni de grandir dans ses ressources, ni de recevoir de l'empathie, ni de comprendre ce qui se passe. Donc, pour ce qui concerne un enfant qui perturbe tout un groupe, eh bien oui, je recommande qu'il y ait un adulte qui soit délégué, qui se détache pour gérer la situation. Et enfin, cet auditeur me demande aussi, en relation avec la thématique de l'enfant roi, puisque nous avons vu que l'enfant roi est un enfant qui n'a pas intégré certaines fonctionnalités de la relation, ou en tout cas qui a intégré une forme de sentiment d'abandon qui le mène à expérimenter des débordements, des dérives, des déviances dans lesquelles il peut se perdre lui-même et perdre aussi la confiance et la sérénité de son entourage. Donc c'est très préoccupant, évidemment, comme situation, surtout lorsque c'est installé, que c'est récurrent, que l'enfant, quoi qu'il arrive, quoi qu'il fasse, c'est une petite tornade qui n'en finit pas d'éprouver son entourage. À juste titre, l'auditeur souligne que là, on ne peut pas faire l'économie d'un travail avec les parents. Ce qu'il faut observer, c'est la systémie familiale pour essayer de comprendre comment l'enfant a construit cette absence de repère et comment y remédier. Qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là? Donc, j'évoquais le fait que souvent, des parents qui ont été fortement malmenés pendant leur enfance, qui ont subi la violence éducative, n'ont pas envie de la reproduire. Et c'est pour ça que dans nos milieux alternatifs, de parentalité proximale, de choix un peu radicaux, de choix éducatifs radicaux, même de choix de société radicaux, parce que souvent ce sont des personnes qui donnent beaucoup de temps à leurs enfants, donc qui sont en marge professionnellement, parfois socialement, et qui vont, pour certains, développer une forme de réaction à toute forme d'autorité ou d'autoritarisme, mais il y a parfois une confusion entre autoritarisme et autorité. C'est-à-dire que l'autorité qui est la verticalité et la légitimité de chacun à faire valoir sa souveraineté, et si c'est vrai pour un adulte, c'est aussi vrai pour un enfant, ça, en tout cas c'est le modèle que nous lui donnons pour qu'il puisse construire lui-même une forme d'autorité qui est le respect des contours de son être en fait, hein, de le respect de qui je suis et de faire valoir de qui je suis. Je n'abandonne pas qui je suis. Donc si un enfant est en train de m'écraser les pieds, ben, je ne dis pas, ben oui mon chéri, continue parce que surtout je ne veux exercer aucune forme de coercition sur toi et au fond ça ne me fait pas si mal et je peux supporter cette douleur pour que tu puisses t'exprimer. Non. En fait, non. On ne laisse pas un enfant faire mal à quiconque, serait-ce à nous-mêmes, même si on le revendique, parce que ce serait une invitation à se perdre dans les repères entre ce qui fait la limite de son corps à lui et ce qui fait la limite du corps des autres. Donc ça c'est un apprentissage incontournable, mais ce n'est pas un apprentissage qui doit se faire... Il n'y a pas une leçon de respect du corps de l'autre. Il y a juste je suis tel que je suis avec ma sensibilité, mon existence propre, mais les contours de mon corps et je fais respecter cette intégrité-là. Et ce faisant, j'apprends à l'enfant à respecter la sienne. Un parent qui ne dit jamais non, non, le non n'existe pas chez lui, ben l'enfant il va intégrer que le non n'existe pas. Et lorsqu'il va être face à une situation d'abus, quelle qu'elle soit, eh bien il ne pourra pas dire non parce qu'il ne l'a pas dans sa panoplie en fait. Il n'a jamais été face au non, donc le non n'existe pas. Donc c'est très grave. On croit que c'est de la bienveillance, mais ce n'est pas de la bienveillance. Je suis d'accord qu'on va donner un maximum de oui à l'enfant, mais on dit oui à ce qui est vivant chez lui, on dit oui à ce qu'il est, on dit oui à son émerveillement, on dit oui à son enthousiasme, on dit oui à sa curiosité, à son envie d'apprendre, on dit oui à tout ça. Donc c'est pour ça qu'on accompagne, plutôt que de dire non touche pas, non fais pas ci, non fais pas ça, non, non c'est pas bien, ça c'est mal, etc. Bon. Donc ça, on a compris qu'on abandonne cette posture qui n'est pas constructive et qui finalement va inviter l'enfant à se définir non pas par sa propre expérience et son rapport au monde, mais par le regard de l'autre et l'autorité, donc là qui pour le coup serait de l'autoritarisme issu d'une personne, d'une tierce personne. Mais non, on se met au service de ce qui est vivant chez l'enfant, puis on accompagne dans l'empathie, dans l'ouverture, tout ce qu'il est amené à traverser pour donner un maximum de oui, un minimum de non, évidemment. Mais le non, il est là, il est nécessaire et il s'impose dans certaines situations. Ça coule de source. Est-ce que je peux enlever le frein à main de la voiture? Non. Et je vais t'expliquer pourquoi. Mais là, c'est non. Est-ce que je peux mettre mes mains dans les épices qui sont en exposition sur le stand du marché? Non. Ça, c'est non. Il n'y a pas de... Un petit peu, peut-être, doucement, mon chéri. Non, tout ça, c'est non. À cet endroit, c'est non. Et il y a une raison qui s'explique, très simple, c'est que sur tes mains, il y a des bactéries qui sont invisibles Et ça, je t'ai accompagnée là-dedans pour te l'expliquer. Et que donc, pour des questions d'hygiène, de propreté, pour on ne touche pas à la nourriture qui ne nous appartient pas. Voilà, moi je vois qu'à de nombreuses reprises, des enfants dits libres mettent les mains dans les plats du collectif. Et ça, je trouve ça insupportable. Mais parce que, non pas parce que l'enfant expérimente de mettre les mains dans un plat, là il fait son boulot, surtout quand il est tout petit. Mais ce que je trouve inapproprié, c'est que les adultes qui sont autour, et notamment les parents, laissent faire. Donc là, c'est un manque de repères. Typiquement. Donc oui, pour que la réalité de l'enfant puisse évoluer et que l'enfant trouve de la sécurité, de l'assurance face à la vie, eh bien effectivement, il faut travailler avec les parents pour que les parents prennent conscience que à cet endroit-là, ils abandonnent leur enfant tout en croyant être bienveillants, tout en pensant faire la promotion de la liberté avec un grand L, etc. Donc, ceux qui ont d'abord besoin de remettre les repères, ce sont effectivement les parents. Et là encore, dans un cadre professionnel qui était le cadre de mon école, j'accompagnais aussi les parents le plus souvent possible pour qu'on s'accorde sur ces sujets et que les enfants qui manifestent des comportements débordants, difficiles, puissent être accompagnés. Voilà. De toute façon, ces questions, elles ont besoin d'être vues un petit peu sous des angles très différents parce qu'il y a toujours des gens qui reviennent vers moi en me disant oui, mais ceci, oui, mais cela. Et c'est super et je vous remercie de le faire parce que ça me permet de préciser, préciser, préciser encore. Et dans la mesure du possible, d'éviter de créer encore plus de confusion. J'espère que ce podcast aura été nourrissant et clair pour vous et vous aura apporté encore du détail sur comment on peut accompagner les difficultés de comportement perturbateur chez des enfants qui n'ont pas construit suffisamment de repères. Ou à ne pas confondre avec des enfants qui simplement font leur job d'enfant, c'est-à-dire s'expriment par la réaction émotionnelle. Et dans ce cas, on y reviendra, ça s'accompagne aussi, mais toujours avec la même bienveillance et les mêmes ressources d'adultes que nous sommes occupés à construire en nous. Merci beaucoup pour votre écoute et puis à bientôt.
Et si nous redevenions humains? Sophie vous invite à questionner vos croyances pour aller plus loin dans votre quête de conscience au service du vivant. Ce podcast est fait pour encourager les chercheuses et les chercheurs en humanité, leur donner des clés issues de l'expérience concrète de Sophie dans les domaines de la parentalité, des collectifs et de l'accompagnement de l'enfant. Bonne écoute!